Bon, moi j'ai plein de questions, mais j'espère qu'elles seront traitées par d'autres. J'en pose une seule pour laisser de la place. Quelle différence faites-vous entre le portfolio et la pratique des carnets de bord, cahiers de vie, carnets d'apprentissage, hormis l'aspect numérisé, hein, je parle vraiment des contenus, des objectifs et dans l'apprentissage.
Bah, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la floraison sémantique autour de cette démarche portfolio. À partir du moment où on est dans l'idée de cette collection d'informations que l'élève organise en fonction de la manière, enfin en fonction de lui-même, on est dans une démarche portfolio. Donc après que ça s'appelle carnet de bord ou que ça s'appelle autrement, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour ça que j'insistais bien sur la démarche.
Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, le portfolio européen des langues. Le portfolio européen des langues répertorie des capacités qui sont définies d'une manière relativement institutionnelle, un petit peu comme dans un référentiel. Bien sûr, c'est l'élève qui détermine s'il les maîtrise ou pas, mais elles sont formulées à l'avance. Alors que dans le carnet personnel, le journal de bord, etc., ou la narration de recherche, comme on l'a vu avec Gilles, c'est un écrit très personnel sur les processus d'apprentissage, sur la réflexion de l'enfant ou de l'élève par rapport aux tâches. Donc ça procède de la même construction d'un rapport du sujet à son apprentissage, mais pas sur les mêmes objets. Il me semble que la différence, elle est là.
Oui, on est un peu dans le système du CREL dont je parlais tout à l'heure, hein, sur le savoir apprendre. C'est-à-dire que là, on a construit des grilles qui sont effectivement utilisables à l'échelle européenne, qui sont standardisées, dans lesquelles on demande à l'élève de s'y retrouver. Ou à l'élève, ou à peu importe qui, mais voilà. Donc, moi j'aurais tendance à dire que on n'est pas exactement dans une démarche de type portfolio, même si ça s'appelle portfolio européen des langues, en tout cas, mais bon, c'est.
Alors, j'ai une question plutôt d'ordre technique, parce que j'ai réfléchi, je suis formatrice IEFM, et donc j'avais réfléchi j'ai proposé aux étudiants un portfolio cette année, mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Vous avez répondu à pas mal de questions. Ma question est très simple, mais c'est comment on fait entrer les élèves dans cette idée de portfolio, alors que d'un autre côté, vous en avez très bien parlé, on est aussi sous tension et sous pression par rapport à des notes. Moi, il y a la masterisation, etc., etc. Donc, comment on les fait entrer ou est-ce qu'il y a des études qui ont travaillé sur cette question?
Je ne sais pas, pour les enseignants, j'ai envie de dire, c'est vrai que la formation des enseignants, ce n'est pas non plus un sujet d'actualité.
Ça va le devenir, hein.
Oui, enfin, bon, vous comprenez ce que je veux dire, même si c'est pas d'actualité. J'ai mangé mon idée. Oui, quand même. Vous leur vendez le praticien réflexif à un moment donné aux nouveaux enseignants, non? Donc rattacher le praticien réflexif à cette idée de démarche portfolio, ça me paraît un bon point d'entrée. Pour les élèves, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des logiques institutionnelles, il y a les parents qui sont pas contents, qui veulent des vrais résultats. Pour les enseignants, dans la mesure où ils sont dans une démarche de formation à un moment donné, ça peut arriver. Je pense que c'est pas suffisant. Non, je sais pas. Moi, je suis pas quelqu'un de terrain, donc je peux pas. C'est difficile pour moi. Voilà, je vous fais une réponse là très théorique. Désolée. Comment motiver les enseignants à... Bon, il devrait y avoir. Il faut chercher. Là,
du côté des psychocognitivistes sur la motivation, si il y a des travaux, mais il faudrait aller voir du côté des travaux des psychocognitivistes. Et surtout, il y a un grand champ. Qui s'ouvre du côté des émotions aussi, l'étude des émotions, motivation, émotion.
Malheureusement, moi, j'ai pas réponse à cette question. Pierre Bénache, il devait pas être présent un peu dans la semaine. Je l'ai pas vu sur le programme, je sais plus.
Si, il est intervenu avec Catherine, mais en fait, ils ont changé. ils sont rentrés sur l'écriture de soi et la carte.
D'accord, parce que effectivement, moi,
je travaille pas sur le terrain.
Donc,
attends, je vais donner parce que moi, je n'y étais pas. Ouais, oui, il faut vous expliquer que veille et analyse, comme son nom l'indique, en fait, ils ont leur mission, c'est de surveiller via le web, notamment. Hein, c'est la première pêche, on va dire. C'est le lieu de pêche. Et en fait, ce sont pas des chercheurs qui sont sur le terrain. Ce sont des chercheurs qui ont un système d'alerte sur ce qui est en train de sortir sur telle question des champs d'éducation.
Alors, moi, je peux peut-être...
Sur des expérimentations en France, non. Mais ça, c'était en 2008. Donc, peut-être que j'avais trouvé des choses au niveau de l'enseignement supérieur. Hein, parce que là, ça bouge un tout petit peu. Mais non, à l'époque, c'était naissant. C'était naissant encore, ces questions-là.
Alors, si vous le permettez, je vais peut-être vous apporter une réponse, puisque parmi les produits, hein, puisqu'il y a aussi cet aspect-là que vous avez évoqué, madame, il y a ce qu'on appelle le web classeur, qui a été donc développé particulièrement dans la Marne, dès 2009, à destination des collèges, avec des expériences qui étaient fort intéressantes et qui déstabilisaient aussi beaucoup les enseignants. Parce que quand on demandait aux élèves de déposer des documents ou de s'exprimer de façon auto-évaluation, non, ce n'était pas simplement le volet orientation, pas du tout. Même si c'était géré par l'ONICEP, l'intérêt c'était de proposer un produit assez ouvert pour être utilisé, alors dans le cadre des ENT naissants, en classe, par l'élève, géré plutôt par le professeur principal, parce qu'il faut bien aussi trouver un acteur qui pilote, et quand on est dans le second degré, c'est toujours plus difficile. Et donc les élèves s'auto-évaluaient, proposaient donc un écrit avant le conseil de classe, au cours duquel, très honnêtement, ils percevaient leurs difficultés. Et parfois même porter un regard assez juste, mais aussi critique, envers ce qui était proposé par l'enseignant. Et donc je vous dis, pour avoir suivi l'expérience, effectivement, c'était assez déstabilisant. Au plan national, le web classeur est à nouveau, déployé depuis 2-3 ans, plus dans l'aspect aujourd'hui orientation. Il y a d'autres expérimentations, puisque nous, sur Aix-Marseille, nous travaillons sur un livret expérimental de compétences avec un groupe qui a utilisé le web classeur parce que c'était un outil qui existait déjà, ça avait l'avantage d'exister. Donc il y a des expériences qui sont menées dans différentes académies.
C'est pour compléter la réponse de la collègue. Donc je confirme, dans différentes académies, Toulouse, Caen, Rouen... Même dans l'Académie de Grenoble, il y a des collèges qui l'utilisent. Voilà. Et notamment, il est utilisé pour l'histoire des arts, pour l'enseignement de l'histoire des arts dans les différentes disciplines. Et au départ, on est parti sur des cahiers matériels, support papier. Et de toute façon, comme il fallait valider le B2I, on a lié les deux contraintes, l'interdisciplinarité requise par l'histoire des arts, et le fait que les élèves devaient construire un parcours de la 6e à la 3e et qu'il fallait qu'on garde les traces, les cahiers ça disparaissait. Donc voilà, alors on l'appelle, nous dans notre établissement on l'appelait pas web classeur, on l'appelait portfolio d'histoire des arts, et il répond exactement à la description que vous en avez faite. Bien sûr, oui, puisqu'il y a toute une partie, c'est pour ça aussi que je posais la question sur carnet de bord, parce que nous on était partis des carnets de bord en histoire des arts, avec une dimension de réflexion sur qu'est-ce que j'ai cherché, comment, pourquoi j'ai choisi ça plutôt que ça, pourquoi je retiens ce tableau, pourquoi... Voilà, avec une dimension effectivement réflexive. Et une partie avec les trois niveaux que vous avez décrits, c'est-à-dire la partie strictement personnelle qui n'est pas publique, où les élèves enregistrent dans la zone privée sur le réseau du collège. Mais on ne peut pas ouvrir les dossiers privés, nous, donc, et puis sur leur clé. et une partie formative où que nous, on consulte pour voir un peu comment ça évolue, qu'ils n'arrivent pas le jour du brevet sans rien. Voilà. Et puis la partie qui sert à l'évaluation, donc plus depuis le dernier texte là, qui vient de sortir, parce que l'épreuve a un peu changé, mais jusqu'à l'année dernière, ils avaient le choix, enfin ils n'étaient pas obligés de prendre 5 tableaux, etc., enfin œuvres d'art. Donc là, je pense que ça a dû évoluer, mais comme je ne suis plus dans l'établissement, je ne sais pas. Mais oui, ça existe, c'est utilisé, et ça a été mis en route depuis 2005-2006, enfin à peu près en même temps que le socle commun, et avant l'histoire des arts quand même, avant l'obligation de s'en occuper.
Oui, simplement pour dire que justement l'histoire des arts étant une nouvelle discipline ou pseudo-nouvelle discipline, c'est un biais, un des leviers qui permet d'installer le socle commun dans les établissements. Il n'y a pas les mêmes résistances des enseignants puisque c'est quelque chose de nouveau. Il y a eu des débats au début entre qui allait se charger de cet enseignement, puis maintenant c'est réglé.